très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On but de l'alcool et fumer du cannabis.
Voilà, 19h passé de 1 minute à la pendule de la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info du jeudi, comme tous les jeudis de la semaine. Enfin, il n'y en a qu'un dans la semaine. Hein. Comme tous les jeudis de toute l'année. Avec Delphine qui fait du bruit avec son micro et qui se balade avec. Qui change de micro sans rien dire.
Parce qu'on en a un qui est moins pratique que les autres.
Voilà.
C'est un bout de ficelle, ça s'appelle.
Voilà. Ce soir, dans cette émission, nous allons parler de pas mal de choses, de répression, de camembert, de France-Afrique, d'Ukraine, d'environnement, d'énergie. Enfin voilà, ça va aller un peu dans tous les sens, un peu comme d'habitude, dans ce Canu Info du jeudi. Et c'est moi qui ouvre, non, même pas.
Tu peux.
Si, alors, du coup, attends, parce que hop, t'as pas mis dans le même ordre que j'avais préparé.
Sinon, je peux juste refaire un truc. C'est revenir sur un truc que tu as dit il y a 2 semaines, dont on avait rediscuté depuis ensemble, puis rediscuté, et puis la semaine dernière, j'ai oublié d'en parler. Ça concernait Charles Trenet. Tu te souviens? Je peux juste redire 2 secondes. C'est que tu as dit que c'était le fou chantant quand on parlait de pédophilie avec Michael Jackson.
Oui.
Et en fait, je t'ai laissé dire sur le coup et ça m'a embêté parce qu'effectivement, dans les années 60, il avait été arrêté pour pédophilie, mais à l'époque, c'était.
C'était de l'homosexualité. Non, mais il a eu aussi.
Il a été arrêté avec des jeunes hommes qui avaient la vingtaine.
Non, mais c'était pas de la pédophilie du tout.
Et voilà. Et donc, c'était sur cette affaire que beaucoup ont s'est braqué. Alors qu'en fait, c'était juste une attaque homophobe sur cette affaire-là. Il faut le dire à l'époque.
Il y a moult trucs qui traînent sur lui.
Et c'est pas très clair non plus, quand même. Et je voulais juste dire que, voilà, on pouvait pas non plus, sans preuve, laisser dire certaines choses. Non, mais parce que moi, j'en ai pas la preuve et que moi, la Delphine.
C'était, je rappelle, un clin d'œil à une blague qui se faisait dans les années 80.
Et oui, mais comme on a des gens de tout âge, je me suis demandé si les gens avaient tous compris. Voilà, mais tu peux donc y aller sur la répression.
Oui, et c'est la bonne nouvelle du jour, qui est une tiers de bonne nouvelle, dirons-nous, puisque l'article... je vous rappelle l'histoire, la réponse ultra-sécuritaire, ultra-liberticide du gouvernement aux débordements de violence qui ont lieu certains samedis dans les manifestations dites de Gilets jaunes. Ils ont, ce gouvernement liberticide de droite, voté une loi dite anti-casseur le 12 mars dernier, et le Conseil constitutionnel aujourd'hui a censuré l'article 3. C'était le plus décrié. Il y en a 3 d'articles qui étaient vraiment très liberticides et très pourris. L'article 3, c'était le plus décrié. Il a été donc censuré, c'est-à-dire qu'il ne passera pas dans la loi. Cet article 3 disait que l'autorité administrative, c'est-à-dire grosso modo l'État, c'est-à-dire le préfet, pouvait prononcer des interdictions de manifester à des citoyens sur l'ensemble du territoire national pendant 1 mois à l'encontre d'individus représentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public avec 6 mois d'emprisonnement risqué et 7 500 € d'amende. Ça avait pas mal fait réagir, même au sein de ce truc qu'on appelle La République En Marche. Et finalement, ça a été censuré. Alors, dans les faits, ils ont censuré parce qu'ils estiment que c'est contraire à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sur la liberté d'expression et notamment sur le flou qui est entretenu par le législateur sur des personnes qui n'ont pas été condamnées mais qui auraient été, je sais pas, peut-être vues un peu dans les manifs, estimées dangereuses. Même sans condamnation, et qui aurait pu être donc interdite de manif. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il y avait 2 autres articles. L'article 2 notamment, qui permet à la police de procéder des fouilles de bagages et de voitures en amont de manifestation. Ça, c'est resté validé. Alors ça, c'est pas le pire, parce que c'est pas non plus ultra-liberticide. Le plus liberticide, c'était bien sûr les 1 an d'emprisonnement et les 15 000 € d'amende sur le fait de dissimuler, même partiellement, son visage lors d'une manifestation. Ça, le Conseil constitutionnel, droit dans ses bottes, j'ai pas dit le bras tendu, mais c'est pas loin, a donc justifié et accepté ce truc qui est pourtant, qui ne semble pas très constitutionnel, mais bon, c'est eux qui sont les gardiens du temple, ou les gardiens de la Constitution, donc on est obligé de les croire. Donc voilà. Alors c'est quand même un bon camouflet dans la gueule du gouvernement, puisqu'ils avaient récupéré cette loi issue de la droite dure, des Républicains très exactement. Ils l'avaient mise quasiment telle quelle, voilà, la récupérant. Et ils se sont fait censurer au moins un article. C'est déjà ça de gagné. Alors toujours sur la répression et la censure, une deuxième bonne nouvelle, et qui sera, quand elle sera effective, encore bien meilleure, c'est sur les lanceurs d'alerte. C'est les personnes, on rappelle, qui signalent des infractions ou des abus en matière de travail, de santé, de sûreté nucléaire, d'environnement, d'alimentaire, enfin tout ce qu'on peut connaître et imaginer et voir de nos jours. Jusqu'à maintenant, les législations dans les différents États membres de l'Union européenne sont très très disparates, et ça a poussé les Verts, donc le parti Vert, les écolos au niveau de l'Europe, à proposer à la Commission un projet de directive. Alors ça date de fin 2017. Il y a toute une histoire sur cette directive. C'était proposé au moment où l'inverse était voté au niveau de l'Europe, cette fameuse directive du secret des affaires, très défendue par la France et notamment par Macron, qui tend à protéger le capitalisme face aux citoyens. C'était ça le but de cette protection sur la directive sur le secret des affaires. Contre les citoyens et contre donc les lanceurs d'alerte. Du coup, ça avait une sorte de réaction comme ça, les élus verts et une large majorité de parlementaires du coup ont réagi. Derrière Virginie Rozière, qui était apparentée socialiste, a proposé une loi de protection des lanceurs d'alerte. Donc ça, c'était 2017. En avril 2018, la commission proposait un projet de directive issu donc de ces parlementaires, validé en novembre dernier par la Commission des affaires juridiques du Parlement. Et là est arrivée récemment la réunion à trois, ce qu'on appelle le trilogue, c'est-à-dire le Parlement, le Conseil de l'Europe et la Commission européenne. C'était en février dernier, et ils ont validé cette directive. Donc c'est une bonne nouvelle, une directive qui augmente beaucoup et qui protège réellement les lanceurs d'alerte. D'abord, dans la définition même du lanceur d'alerte, qui est défini comme, je cite, « tout travailleur du secteur public ou privé, ou tout contractuel qui divulgue, ou tente de divulguer, ou est perçu comme divulguant, alors ça va très très loin, des informations d'intérêt public ou concernant une menace ou un préjudice à l'intérêt public dont il a pris connaissance dans le cadre de sa relation de travail. » Et c'est redéfini en dessous, « travailleur de point ». Toute personne employée par un employeur, y compris les stagiaires, les apprentis, les anciens employés. Donc ça, le but de cette directive, c'est qu'elle encadre vraiment toutes les citoyennes et les citoyens qui ont quelque chose à dire et à dénoncer. Donc voilà, c'est quelque chose de très très bien. Alors, c'est pas aussi idéal que ce qu'avaient voulu les Verts notamment, puisque la directive ne protège que les individus et pas les ONG. Il y avait l'idée aussi à un moment de protéger les ONG, ça s'est pas passé. Mais bon, c'est déjà pas mal. La directive va plus loin encore aussi sur les représailles que pourraient subir en fait les lanceurs d'alerte de la part notamment de leur ancien employeur ou de leur employeur. Donc là, il y a une protection totale, donc avec la charge de la preuve retournée sur l'employeur. C'est-à-dire que si l'employeur dit non, mais je suis pas d'accord, je le vire parce qu'il a dit quelque chose qui est faux, il faut que l'employeur le démontre. Il peut pas avoir juste de la suspicion, ce qui fait une vraie, vraie protection du lanceur d'alerte. Enfin voilà, je vais pas lire toute la directive, tout ce qu'il y a dedans. Ça va être voté d'ici la prochaine session à Strasbourg, donc ça devrait être en avril, donc d'ici quelques semaines. Et les lanceurs d'alerte seront enfin protégés dans l'ensemble de l'Union européenne. Et on rappelle, dans les pays qui sont opposés à tout ça, il y a l'Allemagne et la France, puisque la France trouve que le projet de loi va trop loin. La France, portée par ce gouvernement de droite libérale, était plutôt du côté du secret des affaires, c'est-à-dire du côté des patrons, du patronat, du capitalisme, contre les citoyens et contre cette directive, mais ils n'ont pas été majoritaires, ils ont perdu. Et ben, ça nous fait plaisir qu'ils aient pris aujourd'hui une deuxième claque dans la gueule, tous ces libéraux.
Alors on va rester un peu sur la répression et la répression avec deux parties. Une première partie pour vous dire qu'on c'est alors je dois dire que c'est toi Laurent qui a trouvé ce beau papier. C'est une publié info qui a été publié mardi dans le Progrès. Oui, notre Progrès, nous ici de Lyon, vous savez, le beau journal.
Si c'est vrai. C'est dans le progrès.
Et voilà.
Voilà. C'est un beau slogan faux d'il y a quelques années.
Ah, vieux déjà. Enfin bon, on sent qu'on vieillit quand même dans cette émission. En tout cas, c'est une pleine page. Je ne sais pas combien ça coûte, hein, une pleine page comme ça, si vous avez l'info. Mais n'hésitez pas à nous le faire savoir. Alors, attendez, je vais enlever mes lunettes et mettre les bonnes, parce que c'est écrit en tout petit en bas avec des logos. Alors, la Fédération nationale de l'habillement, la Fédération des détaillants chaussures de France, le machin de l'artisanat, et puis l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie. Enfin, vous voyez, hein, donc, du lobby. Donc, qui a acheté cette page? Et ça commence avec un titre, quel long, accrochez-vous. Stop au blocage sans fin et la perte d'attractivité durable de la presqu'île et du centre-ville de Lyon. Deux lignes, deux titres.
Bon, ça sent le truc anti-gilet jaune.
La ville de Lyon ne peut plus continuer à se transformer en scène de guérilla urbaine chaque week-end, avec des rues barrées par les forces de l'ordre. Et un hélicoptère survolant la presqu'île en permanence, des gaz lacrymogènes autour de la place Bellecour, des clients qui se réfugient dans les commerces en attendant le retour au calme. Alors nous, on est d'accord, l'hélico, ça nous saoule, hein,
nous
franchement.
Aussi, ouais.
Les gaz lacrymo, c'est pas normal que les manifestants, les manifestantes s'en prennent plein la gueule. Que les rues soient barrées pour empêcher les gens de manifester, on trouve ça aussi pas normal, hein. Mais je sens que la suite, c'est pas pareil.
Ouais, c'est ça. Hein, on doit pas être.
Alors,
de leur bord.
Je vais vous épargner tout le paragraphe où on nous explique que, du coup, les entreprises et commerces du centre-ville ont pudiquement, mais difficilement attendu des jours meilleurs qui ne viennent pas. C'est pas moi qui le cite, c'est eux. Ont pudiquement, mais difficilement attendu. J'avais jamais vu, je crois, le mot pudiquement écrit dans ce genre de papier. Mais enfin, c'est très marrant. Donc, on nous explique que tout ça, ça coûte, hein, des tas de problèmes. Il y a des licenciements, du chômage partiel qui sont envisagés. Enfin, bon, voilà. Et alors, donc, on nous explique plus loin. Les Lyonnais souhaitent retrouver leur ville réputée pour son accueil, sa générosité, sa joie, son hospitalité. En quelques semaines de graves troubles, cette identité a été abîmée, dégradée, détruite. Le travail d'accueil et de destination mise en œuvre depuis des générations par les Lyonnais et notre office du tourisme est mis en péril.
Donc là, ils parlent au nom des Lyonnais, c'est-à-dire qu'ils sont allés interroger tous les Lyonnais et ils parlent en notre nom. On les remercie, hein, ces gens méprisants là.
Quand même, en termes purement de syntaxe et de littérature, hein, si vous voulez, j'emploie des mots un peu comme ça, d'une manière un peu générale, on sent quand même il y a de la virgule, hein. Accueil, générosité,
oui,
joie,
c'est des longues phrases, hein.
Dégradée, détruite, voilà.
Bon, contrairement aux gilets jaunes où il y a du slogan un peu court, un peu percutant, eux ils ont fait dans le littéraire
Bon, pourquoi pas, hein, après. Alors quand même, moi, mon paragraphe le préféré, c'est celui-là qui vient, hein. Les résidents lyonnais, alors je tiens à vous le dire que pour ceux et celles qui ont peut-être touché, c'est quand même, je pense, écrit en police 16 à peu près, hein. Voilà, ouais. C'est gros quand même, hein.
Et c'est pas féminisé, hein, vous.
Bah non, vous, voilà, avez ça, les résidents. Voilà, Lyonnais.
Donc les femmes résidentes, vous crevez, c'est pas pour vous.
Ah si, mais ils généralisent. Voilà,
ah oui, pardon, c'est vrai, j'ai oublié.
Le masculin prend
l'ancien
voilà, tout ça, c'est ça, c'est l'ancien truc. Les résidents lyonnais, depuis 4 mois, ne peuvent plus vivre normalement la journée du samedi. Les promenades en famille, une simple sortie avec poussette et enfants est formellement déconseillée. Le samedi est devenu couvre-feu. Les Lyonnais sont pris en otage, les habitants du centre-ville assiégés. Ça va avec la guérilla urbaine du départ, si vous avez bien tout suivi. Hein.
Prise d'otage. Hein.
Prise d'otage,
ça va loin,
et centre-ville assiégé. Hein. Ouais. Alors,
c'est un peu une fausse info quand même, parce que j'ai vu aucune prise d'otage, moi.
Non, non plus, mais bon. Alors c'est sûr, quand t'es avec ta poussette et ton gosse, pardon, mais quand tu prends du lacrymo...
C'est pas facile.
Mais enfin, on rappellera que les lacrymo...
On n'est pas obligé de les lancer.
Voilà. Alors, ensuite, tu peux donc aller, toi qui m'écoutes, sur un site pour signer une pétition que je ne vais pas te donner, bien évidemment, parce que si tu as envie de signer ça, bah, tu vas te démerder. Donc, là, ah bah non, mais il ne faut quand même pas pousser mes mains dans les orties. Donc, la petite phrase, hein, pour aller, quand tu vas aller signer et dire le truc, c'est « Oui, je souhaite d'urgence le retour à une vie normale le samedi et je considère qu'aucune défense d'opinion, aucun mouvement politique ou social ne trouve de légitimité au détriment de la sécurité, de l'emploi et du pouvoir d'achat d'autrui, ni de la survie des petites entreprises. »
Voilà. Donc, en gros, le fascisme, hein, c'est ça. C'est, en fait, la liberté d'expression, tout ça, ça doit se plier devant tout ce qu'ils ont dit, là. Du coup, le capitalisme. C'est intéressant de voir qu'ils ne sont pas du tout démocrates, en fait, ces gens.
L'autre réflexion que j'avais envie d'avoir, c'est un peu entre la critique des médias et la réflexion que je vous propose d'avoir chez vous, parce qu'on ne l'aura pas ce soir, on n'a pas le temps. Mais c'est une histoire, quand même, d'image. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'images de répression que depuis le mois de novembre. Mais c'est vrai, hein, sérieusement, il y a un nombre d'images, de vidéos, de photos. On a beaucoup de témoignages qui nous rapportent la violence policière chaque week-end, alors qu'on sait qu'il y en avait avant. Mais alors, certes, je veux bien croire qu'elle n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines et que la violence est très apparente et qu'elle est absolument incroyable.
Oui. Moi, j'en suis pas persuadé. J'ai pas de chiffres pour dire que ça a augmenté.
Avant, moi,
parce que
y a 10 ans,
que quand
même,
on faisait des manifs, ça tabassait dans tous les sens.
Mais là, c'est quand même. Enfin, on voit des images absolument incroyables qui existaient avant, mais en tout cas, les images, elles sont là aujourd'hui.
Rappelle-toi, les anti-G8 à Gênes, ils tirent sur la foule.
Là, mais là, c'est quand même incroyable qu'on ait autant d'images et que pour autant, on soit aussi passif. Alors, quand je dis « on », c'est la société entière. C'est-à-dire qu'on a la preuve qu'on a une police violente.
Ça, on le savait déjà, nous.
Ouais, mais tout le monde là maintenant le sait. On a les images, on a quand même des actes qui sont mais d'une perversité, qui sont complètement odieux, et on a toutes ces images et pourtant on n'est pas percutés collectivement ensemble. Alors il y a des gens qui aujourd'hui, même à Lyon, il y a de retour des gens qui veulent lancer au niveau des organisations du collectif pour justement lutter contre cette violence policière, mais ça se fait aussi dans d'autres villes. Enfin, il y a nos mouvements. Mais le cas quand même pour moi d'école, c'est Geneviève, vous savez, cette militante d'attaque qui s'est fait agresser par la police, qui non seulement s'est fait agresser, s'est retrouvée au sol, a été emmenée à l'hôpital, mais en plus de ça, c'est proches n'ont pas pu s'approcher d'elle quand elle était à terre, alors que le sang lui coulait de la tête. C'est-à-dire qu'on l'a même empêché les gens de l'aider, en fait. Ce qui est beaucoup revenu dans les médias, parce que, en fait, Geneviève, elle a été dans les médias, là où d'autres ne l'ont pas été. Donc, c'est parce que on nous a beaucoup expliqué sur France Info qu'elle avait 73 ans. Oui. Donc, une petite vieille blanche d'attaque, c'est plus facile d'en parler.
Non, mais c'est
que
vrai.
Quand c'est un black box de 30 balais au chaume du
qui vient casser de la vitrine.
Même, voilà. Et donc là, on sent qu'il y a quand même. Alors tant mieux, parce qu'il y a un émoi et que c'est scandaleux ce qui s'est passé. On va pas remettre la chose en question.
Effectivement, c'est un peu le cas idéal.
Mais pour les médias,
que tout le monde attendait.
C'est le cas idéal.
Pour pouvoir l'instrumentaliser au maximum contre les flics. Alors, contre la violence.
Parce que c'est pareil, attaque, c'est pas des black blocs. Ils sont là de. Il y a ici une organisation qui existe depuis longtemps. Qui
ils sont plus radicaux qu'avant. Je te rappelle qu'avant, ils nous empêchaient de casser les stations-service.
Ouais, alors il faut souvenir aussi que d'attaque, s'il y avait attaque France, attaque Paris, attaque Lyon, et que c'était pas les mêmes.
Oui.
Et
que
on s'en souvient aussi parce que les militants n'avaient pas la même radicalité ici à Lyon que pour d'autres. Enfin voilà. En tout cas, on a eu quand même des médias qui se sont heureusement comportés cette affaire, bien heureusement, parce que c'est scandaleux. Mais on rappellera qu'en France aujourd'hui, il y a des gens qui depuis des mois se font fracasser la gueule, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont perdu la mâchoire, les cloisons nasales, l'orbite autour des yeux. Et qui ne font pas la une des journaux, parce que justement, ce ne sont pas des personnes honorables,
voilà.
Voyez. Et bien ça, c'est scandaleux, parce qu'il faut qu'à un moment, collectivement, les médias, tous, se saisissent de ces affaires, et ce n'est pas le cas.
Et puis les violences policières, ce n'est pas que dans les manifs, on rappelle, dans les contrôles aux faciès, notamment, qui ont lieu dans certains quartiers, ça bascule quelquefois en violence policière et là souvent il y a moins d'images donc du coup c'est
donc voilà on fasse tout ça pour dire que donc on a beaucoup d'images et que on a du mal à saisir et à amener la preuve que on a une police violente qui réprime et que on peut parler de ce qui se passe en Russie, on peut parler de ce qui se passe dans d'autres pays. En fait, aujourd'hui, pour moi, c'est difficile de vous rapporter des manifestations en Russie où les gens se sont fait tabasser, alors que chez nous c'est exactement ce qui se passe avec la même violence.
Voilà. Après, quand
la seule différence ici, c'est que tu ne vas pas au goulag.
Voilà, c'est ça. C'est qu'une fois que tu es dans le commissariat, c'est a priori moins pire en France qu'en Russie.
Mais pour les manifestations, ça devient quand même difficile de faire ce qu'on faisait avant, où on critiquait d'autres États qui étaient dans la répression policière très très forte des militants. Voilà, il y a une petite différence qu'on n'a plus aujourd'hui.
Alors, il y avait une micro-journée de mobilisation aujourd'hui. Je dis micro parce que malheureusement, elle n'a pas été super suivie. Un appel dans l'éducation nationale, seulement dans l'éducation nationale, un nouvel appel. On a déjà eu le 19 mars, le 30 mars. Là, c'est le 4 avril. Des journées totalement inutiles puisque une grève d'un jour ne bloque pas le système et n'embête assez peu le ministre. Malheureusement, pour l'instant, les syndicats ne font que ça. Il n'y a pas que ça en mobilisation, mais en tout cas, dans ce qui est visible aujourd'hui, il n'y a que ça. Tout ça contre les deux lois, en fait, qui attaquent la fonction publique et l'éducation, notamment la loi Blanquer. Donc aujourd'hui, une mobilisation qui a été surtout suivie dans le premier cycle, dans les petites écoles. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a les plus grosses attaques qui ont été montées en épingle, en fait. Parce qu'il y a des attaques à tous les niveaux, mais bien évidemment, avec la création notamment des établissements publics de savoirs fondamentaux qui supprimeraient les écoles et qui les intégreraient dans les collèges, avec la suppression des directeurs d'école. Là, ça a beaucoup énervé les enseignants du primaire, notamment. Et Tout ce les menaces hein, qui sont contenues dans cette loi contre les enseignants. Donc là, ça va beaucoup plus loin que d'habitude. Alors, ça a mobilisé à peu près 400 personnes à Lyon, vous imaginez, c'est pas beaucoup. À Paris, c'est là où, a priori, il y a eu la plus forte mobilisation. Pas mal de grévistes, presque une école sur trois de fermée, hein, c'est plutôt pas mal. Alors, dans le second degré, très peu de mobilisation. La loi, tout le monde s'est focalisé sur le premier degré. Donc le second degré, pas grand chose. Pourtant, la loi sur la réforme du lycée est quand même vraiment pourrie. Et puis c'est une vraie loi, soi-disant, hein, les fameuses lois de l'école de la confiance, mais qui va être une école qui va favoriser les familles de riches, hein, qui vont pouvoir analyser très tôt, parce qu'il va falloir prendre des décisions dès la troisième pour mettre son fils, sa fille au bon endroit, dans la bonne section, avec la bonne option, etc. Ça complexifie et énormément le système, ça met de la concurrence partout. C'est absolument apocalyptique. Malheureusement, pour l'instant, la mobilisation sur une journée, même si elle était massive, ne sert de toute façon à rien. On a assez d'expérience pour le savoir. On notera quand même que certains enseignants ont d'autres méthodes qui sont plus énervantes pour l'éducation nationale, notamment de mettre des 20 à toute la classe. Quand on fait passer des évaluations, parce qu'il y a pour le coup aussi pas mal de polémiques sur les évaluations pour les petites classes notamment. Donc ça c'est une bonne méthode, les enseignants prennent de gros risques. Ils prennent des risques, pas des gros risques. Hein. Ils prennent des risques.
Ils vont pas aller au goulag, tu veux dire.
Non, mais on n'est pas viré non plus. Enfin voilà. Mais ils prennent des risques et c'est à signaler. C'est beaucoup plus glorieux que de défiler dans la rue la journée, même si ça peut être complémentaire. Voilà, on rappelle samedi dernier à Lyon, je crois qu'il y avait quasiment 3000 personnes, profs et parents d'élèves, ce qui fait peu au final, pour défendre l'éducation nationale. Et alors on reste dans l'éducation parce que il y a quand même l'empereur de la région Rhône-Alpes, Auvergne, qu'on appelle Laurent dit le Wauquiez, qui a trouvé un nouveau truc sécuritaire, liberticide, méchant. Il aime bien la sanction, lui. Hein. Lui, la pédagogie, l'explication, tout ça, il connaît pas. Il connaît la sanction. Pour lui, c'est la seule méthode pédagogique qui marche, c'est la sanction. Et il a annoncé un nouveau truc lundi, puisque dès la rentrée de septembre, il va faire signer une charte des droits et des devoirs à chaque élève. Waouh, putain, c'est la classe. Ça vous fait pas rire, mais tout non plus. Il a expliqué tout ça. Et en plus, attention, si vous respectez pas cette charte des droits et des devoirs, vous risquez la suspension de votre passe région. Eh oui, la sanction, elle est là. Plus de passe région, vous savez, c'est une carte qui permet d'avoir accès à des livres, à des pièces de théâtre, des concerts, plein de choses liées à la culture notamment, qui coûtent cher à la région. Alors c'est comme ça qu'il justifie, il dit attention, la région elle investit massivement pour les lycées, je cite, hein, c'est pas moi qui le dis, dans les bâtiments, la gratuité des manuels scolaires et le passe région. En contrepartie, le lycéen, il s'adresse au lycéen, doit prendre conscience qu'il a des droits mais aussi des devoirs et qu'il doit respecter les professeurs, le personnel, les locaux, le matériel ainsi que ses camarades. La mise en place de la charte des droits et des devoirs du lycéen est avant tout un acte pédagogique et éducatif qui fédère l'équipe éducative, la famille et la région, autour des valeurs du respect et du bien-vivre ensemble, affirme donc l'empereur Laurent Wauquiez. Parce que l'empereur, le dieu, qui lit à l'intérieur des cerveaux de l'ensemble des personnels, comme il dit, éducatifs, des familles de la région, puisqu'il sait d'avance, comme il l'a dit, que tout le monde est d'accord avec ça. Or, toutes les personnes, membres de personnel éducatif que j'ai croisés, sont tous contre ce qu'il dit. Alors, soit il ment. Je voulais choisir la solution. Bon, bref, voilà, il nous a fait un truc ridicule, assez traditionnel de la droite, où seule la répression compte, et sur l'éducation, ils sont vraiment, on a l'impression qu'ils veulent revenir à l'école du 19e siècle, hein, où très peu d'enfants accédaient aux études supérieures. Et en plus, c'est pas mal irréalisable ce qu'ils proposent. Il y a un représentant du syndicat majoritaire des directeurs d'établissement de la région Rhône-Alpes là, qui dit mais attendez, mais comment on va faire là, comment il va pouvoir faire? Aucun chef d'établissement proviseur n'envoie les résultats des sanctions à la région. ça reste dans les lycées, hein. Ah bah il les aura pas. Donc voilà, donc déjà c'est complètement faux. Et en plus, il aurait, ça pourrait être attaqué devant le tribunal, puisqu'on n'a pas le droit en France d'avoir une double peine. C'est-à-dire qu'on ne, quand on a fait quelque chose qui est répréhensible, on ne peut être puni qu'une fois pour ça. Or, il existe déjà des règlements intérieurs dans les lycées. Et si un élève fait quelque chose qui n'était pas bien prévu, il va avoir un conseil d'éducation, un conseil de discipline, ou je ne sais comment chacun ou chacune appelle ce genre de choses, suivant la sanction, et il va être voilà sanctionné. Donc, s'il a une deuxième sanction par Monsieur Wauquiez, hein, qui se prend pour un capot de camp là, qui tape sur tout le monde, eh ben il n'aura pas le droit de le faire. Ça, il l'a pas compris. Je crois qu'il a pas bien compris ce que c'était avec les règles en France, la double peine, la justice, la démocratie, tout ça. Donc voilà, il nous a fait encore un truc sur l'éducation où il est à l'air complètement à la rue. Il n'a jamais été prof, ça se voit. Il n'a jamais été confronté non plus à des ados et il est donc une fois de plus complètement à la rue. Et pour terminer dans l'éducation, j'avais parlé de la fermeture, du projet de fermeture de l'école Lévi-Strauss, décidée par l'autre bord politique, le centre droit porté par Gérard Collomb, et la maire Nathalie Perrin-Gibert du 1er arrondissement de Lyon a déposé deux recours contre la fermeture de cette petite école maternelle sur le début de la presqu'île. Un en référé et un sur le fond. Elle récuse toutes les justifications de sécurité, tout ça porté par le rendu du conseil municipal. Donc voilà, j'espère que ça va aboutir. C'est une petite école, un endroit où il y a de moins en moins d'habitants, il y a de plus en plus de bureaux et c'est bien qu'il y ait une résistance. Donc jusqu'à maintenant, on en avait parlé, c'est les familles qui avaient plutôt alerté. Là, c'est la maire du 1er arrondissement qui prend le relais, donc ça met une deuxième couche contre Collomb et tous ses sbires. C'est plutôt pas mal.
Alors, avant de passer à de l'international, juste une mini information très importante. Oui. Je tiens à vous informer que la semaine de la propreté qui devait avoir lieu du 6 au 13 avril est annulée en cause d'une grève des éboueurs qui tombe un petit peu mal.
Il y avait la semaine de la propreté, c'est vrai ?
Ouais, à Vénissieux, ouais.
Ah ouais, bah oui,
il y a des petits problèmes d'organisation a priori, puis apparemment ça tombe mal. Juste, bon, ça me permet de vous dire que donc il y a une grève des éboueurs que vous êtes certainement au courant. Ça, oui. Depuis le 19 mars, qu'il y a eu des blocages de dépôts, d'incinérateurs, que ces blocages ont été levés, que c'est un collectif donc de travailleurs travailleuses qui s'est mis en grève pour une augmentation de salaire, auquel on leur répond non, pourquoi donc ? Parce que il y a quand même ces grévistes à faire savoir que leurs salaires sont quand même proches du SMIC hein, et qu'en fait ils complètent avec des primes et qu'ils en ont marre de ce rapport-là parce que, rappelons-le, les primes, ça ne va pas t'aider.
Ça, et puis ça n'intervient pas dans la retraite.
Et c'est enfin, ça voilà. L'idée. Donc ils voudraient avoir des vrais salaires en rappelant qu'ils ont un travail difficile.
Qui n'est pas super agréable.
Non, parce qu'il faut quand même porter des charges lourdes.
Ouais. Qui puent parfois.
Qui plus souvent, et puis que voilà, ça attaque le corps, tout simplement, toutes ces poubelles, puis c'est le retour d'être derrière un camion qui vibre, de monter, descendre, enfin voilà, tirer des poubelles. Voilà, c'était juste voilà, pour ça, et donc on passe à l'international. Alors soit je commence, soit tu y vas, ça dépend si tu te sens d'y aller tout de suite avec le Ronda.
Ah bah y aller tout de suite avec le Ronda, ça allez, concerne surtout en lien avec la France. C'est un imbroglio incroyable, hein, comme d'habitude, dès qu'il s'agit de la France-Afrique, puisque c'est de ça dont il est question. On attendait, d'ici la fin de semaine, ce qui est annoncé, la nomination des historiens membres de la commission d'enquête censée plancher sur les archives encore classifiées, portant sur le rôle plus que trouble de la France au Rwanda avant, pendant et après le génocide des Tutsis. On n'a rien qui est sorti, si ce n'est qu'on a des bruits de couloirs qui sortent. Hein, il n'y a rien d'officiel. Sauf que des bruits de couloirs portés par des historiens qui se sont fait rétoquer. On leur a dit dégage. C'est le cas notamment de Stéphane Audouin-Rouzeau, directeur d'études à l'EHESS, et Hélène Dumas, chargée de recherche au CNRS, qui ont été écartés de cette commission pour parler du génocide rwandais. Alors bizarrement, c'est des gens plutôt compétents, notamment Stéphane Audouin-Rouzeau, qui bosse sur le Rwanda depuis pas mal de temps, et qui est un des grands spécialistes français sur le Rwanda. Or, il a même été convoqué à l'Élysée. Et a priori, lui, il a compris que certains de ses écrits qui parlent du rôle de l'armée française au Rwanda n'ont pas plu. Et donc, c'est pour ça qu'il l'aurait mis de côté. Alors bon, c'est un peu compliqué de faire une sorte de commission d'enquête avec des gens qui vont être choisis pour leur orientation et leur pour être d'accord déjà avec le président de la République. Je pense qu'il finalement il va rien sortir de ce truc. Alors surtout qu'on a des bruits quand même qui sont pas rassurants. Notamment, c'est un amiral, Jacques Langsade, ex-chef d'état-major des armées pendant le génocide. Donc lui, il a peut-être pas les mains très propres. Lui, il a dit, si ces archives n'ont pas encore été ouvertes aux chercheurs, je ne suis pas inquiet, il y aura rien de compromettant dedans. Moi, je comprends, derrière sa phrase, qu'ils ont déjà fait le ménage. On sait qu'il y a plein de que la France a aidé les génocidaires à un moment, enfin l'armée française. Donc il y a plein de trucs qui sont sortis de glauque hein, sur ce qui s'est passé pendant ce génocide. Et bon, là la France fait tout, on a l'impression, pour pas que ça aille dans le bon sens. Alors faut savoir qu'en fait que ça fait un moment qu'Emmanuel Macron, qui est moins pire que ses prédécesseurs sur le statu quo sur la France-Afrique, hein, qui essaye de faire évoluer quelques fois les choses, mais quelques rares fois, hein, on l'a vu parler de la colonisation en termes négatifs, ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment du côté de chez Sarkozy et d'autres. Là, on sent bien qu'il est coincé aux entournures. Pourtant, il avait reçu le président rwandais, il lui avait promis de faire avancer les choses, parce qu'il aimerait bien que la France et le Rwanda remarchent main dans la main, hein, quelque part. Et ben voilà, ben pour l'instant, en tout cas, ça va pas très loin, ça avance pas dans le bon sens. Alors, en théorie, d'ici demain, ils sont censés donner les membres de cette commission d'enquête, censé plancher sur ces archives déclassifiées ou déclassifiables. On va voir si on a les noms qui sortent et si les deux chercheurs et chercheuses mises au rencard vont être réintégrés à cette commission pour qu'on ait des vraies infos qui sortent et qui soient officialisées. Ça serait quand même plutôt pas mal.
Alors, on va poursuivre avec quelques brèves rapides à l'international. On va partir en Arabie Saoudite où l'indécence n'a pas de limite, moi je pense. Puisque les enfants de Jamal Khashoggi, vous savez, ce journaliste assassiné, démembré,
ouais, enfin,
en octobre dernier.
Voilà, un peu Dexter, mais façon Arabie Saoudite.
On ne sait pas bien en fait, hein, c'est pas très clair.
Hein. Ouais.
Donc c'est une information du Washington Post pour lequel Jamal Khashoggi travaillait, qui a rapporté qu'en fait les enfants de ce journaliste avaient obtenu des indemnisations. Alors il faut savoir qu'il a un fils hein, qui vit en Arabie Saoudite, mais les autres, un fils et deux filles, vivent aux États-Unis d'Amérique. Donc les maisons qu'on leur a offertes, c'est pas bien ce qu'ils vont faire, ceux qui vivent aux États-Unis, mais il va falloir offrir des maisons.
C'est sympa quand même.
Dans un beau complexe résidentiel, il paraît que ça vaudrait jusqu'à 4 millions de dollars chacune.
Ouais.
Belle indemnisation. Pour l'instant, il y a des versements mensuels aussi qui seraient autour de 10 000 dollars. Au taux actuel à peu près du dollar, ça fait du 9 000 euros.
Ils essayent de les acheter quelque part, là ?
Eh ben, va savoir. Alors, il paraît qu'après, il pourrait même y avoir d'autres négociations dans le cadre du prix du sang. Un grand truc aussi, voilà. Ça, c'est après les suspects qui ont été arrêtés. Hein, puisque je vous rappelle que du côté de l'Arabie Saoudite, on dit que c'est des extrémistes qui ont fait ça, que ça n'a rien à voir en fait avec l'État saoudien.
C'est pas MBS avec ses initiales là.
C'est des gens qui ne sait pas pourquoi ils l'ont fait.
Pas du tout.
Voilà. Donc il est possible qu'après ils obtiennent d'argent aussi dans le cadre du procès, mais ça après c'est dans le cadre d'un procès. On pourrait le penser autrement. Par contre, c'est quand même très bizarre d'offrir des maisons, mais... Voilà. Donc moi je trouve ça un tout petit peu indécent. Je sais pas comment vous voyez ça. Bon, je sais pas, peut-être qu'ils aimeraient plutôt la vérité, mais ça après, voilà. Du côté de l'Ukraine, alors on se dit que chez nous, quand même, il y a des fois les élections, c'est des grands moments. Mais alors je pense qu'il faut se tourner vers d'autres pays pour se dire, bah c'est pire. Donc vous savez qu'en Ukraine, il y a des élections présidentielles. Vous êtes au courant de cette affaire. Vous savez qu'il y a eu un premier tour et
oui.
Que
c'est un comédien clown, là, je sais pas quoi, qui a gagné.
Ah, il est comédien, il faut arrêter de l'appeler le clown. Ça, c'est plutôt l'opposition qui l'appelle le clown. Il est comédien. Effectivement, il est très connu pour son rôle de professeur d'histoire devenu d'un seul coup président dans une série. Et effectivement, il s'est présenté donc aux élections et c'est lui qui a gagné le premier tour avec plus de 30% des voix. Et que le sortant, Petro Poroshenko, lui,
Il rame.
Il rame. Donc, Monsieur Zelensky, comédien, qui donc se met à la politique alors qu'il ne connaît rien.
À un moment, quand on commence un métier, on n'y connaît rien, on apprend sur le tas.
Alors, moi, quand même, je tiens un peu à faire une critique de sa campagne, parce qu'il a fui tous les médias, il a tout fait ça que sur les réseaux sociaux, et quand on lui pose des questions sérieuses, il ne répond pas.
Oui, non mais en fait, ça ressemble à ce qui se passe maintenant dans plein de pays, où on a Pepe Grillo en Italie qui arrive, qui sort de nulle part. Alors après, il a des gens derrière, et il sort un pseudo-programme, et il s'allie avec l'extrême droite, parce qu'en fait, c'est un facho déguisé. Mais on a monté de ces pseudo-citoyens qui arrive par les réseaux sociaux. Et qui...
Alors, il n'est pas un pseudo-citoyen, il est bien citoyen.
Non, mais je veux dire, les pseudo-futurs élus, là, qui viennent de nulle part et qui sont créés par une espèce de système artificiel, moi, je trouve. Hein. Mais les partis étaient des systèmes artificiels aussi, de toute façon.
Non, mais pourquoi pas, il a le droit. Et puis,
le seul truc, c'est que se présenter une élection sans qu'il y a un vrai programme, il y a
C'est plutôt pourquoi les gens vont voter pour lui s'il n'en a pas de programme.
Voilà. Mais du coup, c'est pas rassurant pour le système démocratique ukrainien.
La série s'appelait Le Serviteur du Peuple et le parti qu'il a monté pour se présenter, ça s'appelle Le Serviteur du Peuple. Voilà, la boucle, elle est bouclée. Donc, effectivement, c'est aussi une attaque contre le président sortant, monsieur Porochenko, qui est quand même peu accusé de corruption.
Oui, mais il n'est pas super réglo, lui.
Bah non.
Quelque part, ça faisait plaisir qu'il ne gagne pas. Quoi.
Il est devenu très, 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 très nationaliste. Ouais, il avait fait le soutien de la révolution Maïdan aussi, il faut le dire.
C'est quasi l'ensemble de l'Ukraine qui est nationaliste maintenant.
Voilà, bon, c'est un homme d'affaires à la base. Il a été élu en 2014. Il faut se souvenir que en novembre-décembre, suite à un incident avec des navires entre l'Ukraine et la Russie, il avait mis en place la loi martiale en novembre-décembre, qui finalement n'avait duré qu'un mois, mais bon, voilà. Donc on peut penser aussi que c'est une réaction.
Oui, mais sûrement.
Voilà, à Petro Poroshenko. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après, donc dimanche, du côté de M. Poroshenko, on a demandé un débat avec M. Zelensky, avec certainement l'idée derrière que comme il n'est pas capable pour l'instant de faire trois phrases un peu sérieuses, non pas parce qu'il est comédien, mais parce que pour l'instant il n'a pas l'air d'avoir d'idée, lui faire un débat, c'est peut-être un moyen de le couler. Tu sais quoi, l'opinion ukrainienne, elle est pour. Elle veut ce débat.
Ouais.
Je vous rappelle qu'il n'a eu que 30% des voix des votants quand même. Ouais. Donc c'est quand même pas non plus 90%. Donc, y a un débat qui va être organisé certainement, mais la date n'avait été pas fixée quand j'ai regardé tout à l'heure, le vendredi 19 avril, c'est-à-dire juste avant le deuxième tour qui va avoir lieu le 21 avril. Et le débat va avoir lieu où ? Dans un stade à Kiev.
Ah oui, en public.
Oui, le stade olympique où il y a eu... du foot. Je ne sais plus quel machin, parce que vous m'excusez. La Ligue des champions de football en 2018, voilà, j'ai retrouvé. Donc c'est un gros machin, 70 000 places. Donc c'est marrant, ça change de chez nous, où ils se battent tous pour passer à la télé, sur France 2. Où là, ils vont faire un débat à 12, ça va être sympa. À la place de 9, enfin bon... Voilà. Et donc, c'est ce que propose donc, l'équipe de Poroshenko. Et M. Zelensky répond dans une vidéo où il se met en scène, en disant... Oh yeah, je vais y aller. Et donc là, on tombe quand même dans le truc absolument incroyable, c'est qu'il se met en scène dans une très belle vidéo. Alors moi, j'ai pas compris ce qu'il disait, mais j'ai lu après des traductions. Oui,
t'avais pas fait ukrainien première langue.
Non, mais même pas en troisième. Et ce qui est marrant, c'est qu'il s'est filmé jusqu'au stade, c'est-à-dire qu'il a réussi quand même à se filmer à l'intérieur de ce stade. Donc il dit, je vous attends ici au stade olympique. Enfin bon, voilà, il fait tout un truc. Et puis comme ça, enfin moi, franchement, Monsieur Zelensky, bon, je doute un peu. Donc il a demandé, est-ce qu'il y a un examen médical obligatoire pour montrer qu'il n'y a pas d'alcoolisme ou de toxicomane dans... Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'histoire autour de M. Poroshenko qui serait forcément un cocaïnomane, vous voyez. Bon, voilà. En tout cas, il a fait cette vidéo. Et M. Poroshenko, il a répondu comment ? En faisant lui aussi une vidéo. Et voilà. Où il dit... Moi, je vais y aller aussi. Non, il ne dit pas ça. Mais enfin, globalement, lui, il essaye de jouer le chef détendu. Moi, je connais le truc, toi pas. On n'est pas sur du spectacle ici. Donc, l'idée, c'est que tout le monde va aller au stade pour débattre avant le deuxième tour. Moi, je pense qu'on peut s'inspirer de ça.
Ouais,
ça serait pas mal.
Ça ressemble à tout, sauf à un débat d'idées, quand même, dans ces vidéos, dans ces trucs comme ça.
Mais c'est très, très curieux. Et puis, faire une campagne aussi que sur les réseaux sociaux. Moi, vous savez ce que j'en pense si vous nous écoutez souvent. Si on a le temps, on y reviendra d'ailleurs à la fin de cette émission. Alors, ensuite, on part au Japon. On a dit qu'on serait bref dans ce tour international. Juste pour dire que, donc, il y a un nouvel empereur. Ça, vous l'avez déjà raconté. Je vous avais raconté que y a des citoyens et... un des princes, Kishino, le fils cadet de l'empereur Akihito, qui trouve que c'est pas normal que c'est l'État qui paye toutes les festivités autour de cette intronisation du nouvel empereur. Voilà, donc là il y a eu des gens qui ont amené des poursuites judiciaires. Alors c'est marrant, c'est en partie des gens laïcs, mais aussi des religieux, hein, des moines bouddhistes, des chrétiens, enfin tout ça, qui se plaignent quand même de cette dépense d'argent considérable, ce qui est vrai quand même. Et alors donc, il y a une semaine en fait qui s'appelle la semaine en or, qui est censée amener cette intronisation, où les Japonais et les Japonaises ont donc des congés. Et cette année, chose extraordinaire que nous, ici, on en vit, ils ont eu plus de congés que les années où c'était arrivé. Hein, c'est-à-dire, c'est pas tous les ans. Et ben alors là, il y a des sondages qui disent, mais qui sont pas du tout contents, les Japonais et les Japonaises. Ils veulent aller travailler.
Ils sont japonais.
Il y a des tas de réactions. C'est mais qu'est-ce que je vais faire tous ces 10 jours? Je vais m'ennuyer. Et puis tout, il va être fermé. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, en fait, c'est pas toutes les réactions, puisque dans l'hôtellerie et dans les voyages, là, c'est une entreprise qui marche bien, puisque depuis que ça a été annoncé, il y a des tas d'offres qui ont été mises en place et elles trouvent preneur. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même des Japonais et Japonaises qui ont envie quand même de profiter un petit peu de la vie et de se mettre en congé. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Arrêtons de penser que les Japonais et Japonaises ne veulent faire que travailler. Mais quand même, les sondages pensent que c'est terrible de nous donner autant de jours. Mais enfin, voilà. Donc, regardons ce qui se passe ailleurs. Nous, on veut bien les jours. C'est qu'à nous les donner. Et puis, voilà, c'était tout. Je vais m'arrêter là au niveau de l'international. Je vous propose de passer à une chronique plus énergie et environnement avec toi.
Voilà, juste un petit exemple tout de suite que le capitalisme, quand il s'agit de gagner de l'argent, est bien moins bête que les Wauquiez, Le Pen, Macron et autres défenseurs du nucléaire, puisque Engie a annoncé hier sa participation en tant qu'investisseur et responsable dans un énorme projet qui s'appelle Projet Phoenix de 10 nouveaux parcs éoliens en Espagne. Et oui, le capitalisme a compris que le nucléaire, ça marchait pas, que c'était pas rentable, que c'était compliqué à gérer. Engie cherche d'ailleurs de se débarrasser depuis des années des centrales belges qu'il possède et investit dans le renouvelable. D'ailleurs, pour ces parcs éoliennes, 91 éoliennes, et ben c'est pas des fournisseurs français. Ben oui, c'est normal, puisque les fournisseurs français, eux, les entreprises françaises, elles aiment pas le renouvelable et elles fabriquent des centrales nucléaires. Ben voilà, ça explique un petit peu pourquoi on est à la rue, hein, parce que et le capitalisme français et le reste est à la rue, même si Engie est en partie français quand même. Donc voilà, c'était juste pour montrer qu'il y en a qui sont moins cons et qui investissent là où ils gagnent de l'argent, et c'est pas dans le nucléaire qu'on en gagne aujourd'hui. Ah, on va parler de l'idiot utile en ce moment-là. Il y a un gars qui a été très très fort, qui est le directeur d'une centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, et qui est très fier de lui, puisque il s'appelle Jean-Marie Boursier. Il dit, ouais, ma centrale est super bien, super fiable, là on fait une nouvelle série de tests, etc. Et il a sorti, je cite, et là ça vaut son pesant de cacahuètes, plus la centrale vieillit, plus elle est sûre. Et là, moi je dis bravo. Parce que c'est pas totalement vrai dans les faits, hein, quand on voit. Alors même si sa centrale, effectivement, avec 46 incidents déclarés en 2016 et 26 en 2017. Bon, ça fait une amélioration, d'accord. Mais bon, quand même, on sait que tout le matériel vieillit, les tuyauteries vieillissent, l'électricité, enfin les fils électriques aussi s'abîment, enfin voilà. Donc dire que plus une centrale vieillit, plus elle est sûre, c'est méconnaître ce que c'est qu'un outil industriel et de toutes les parties qui peuvent vieillir et qui vieillissent pas forcément très très bien. Enfin voilà, ça, il m'a fait rire, si ce n'était que c'est sur quelque chose de potentiellement très dangereux. Et puis j'ai une grosse info là qui vient d'Australie. Et dans les défenseurs du nucléaire ou des hydrocarbures sur la production d'électricité, il y a souvent l'argument qui dit c'est compliqué avec les renouvelables car leur production est intermittente, laissant entendre que ça arrive de temps en temps, on ne sait pas quand, et c'est problématique. Alors il y a toujours une partie de leur argument qui est faux. Alors c'est intermittent, mais c'est prévisible. C'est-à-dire qu'on sait une journée, une semaine à l'avance, il y a différents types de prédictions, grâce à Météo France notamment, et même les services de RDF, tout ça. On sait qui va produire quoi bien à l'avance, en fait, hein, puisqu'on maîtrise quand même pas mal la science même du climat. Et donc ça déjà c'est pas mal faux. Et deux, Il nous rabaisse, il nous bassine tout le temps en nous disant, voilà, vous qui êtes contre le nucléaire, vous comprenez pas, on est coincé, comment vous faites pour produire de l'électricité s'il fait nuit et qu'il n'y a pas de vent, parce que vous n'avez pas d'éolien et vous n'avez pas de centrale de panneaux solaires qui fournit. Et il y en a qui leur répliquent, eh ben, il faut développer le stockage de l'énergie électrique. Et il y a des industriels milliardaires qui se mettent sur le créneau, qui fabriquent des batteries pour essayer de foutre des batteries partout. Et on sait très bien que c'est une solution qui est écologiquement négative. Et là, il y a une étude très sérieuse faite par un chercheur qui s'appelle Matthew Stokes, qui bosse dans une université en Australie, qui s'est occupé des steppes. Alors, c'est quoi les steppes ? Les steppes, ça veut dire station de transfert d'énergie par pompage. Alors, la plus connue dans la région, c'est Grand Maison, si vous connaissez un petit peu. Donc, c'est un lac de haute montagne dans lequel on va stocker de l'énergie électrique sous forme d'eau. En fait, on remonte de l'eau de la vallée dans ce lac. Donc, on consomme de l'électricité qu'on aurait en trop à un moment où on produit et on n'en a pas besoin. Et quand on a besoin, l'inverse de l'électricité, alors que les éoliennes, par exemple, ou les panneaux solaires ne fonctionnent pas, on descend l'eau et on recrée de l'énergie électrique avec l'eau qui descend. En fait, on stocke l'énergie électrique sous forme d'énergie mécanique contenue dans l'eau qu'on monte et qu'on descend. C'est quelque chose qui est super efficace, qui permet à la France de s'en sortir, hein, parce que grâce à ça, on peut stocker l'énergie des centrales nucléaires la nuit, alors qu'on n'en a pas besoin dans ce genre de choses. On en a 6, je crois, d'installations STEP comme ça en France, avec des rendements qui sont autour de 80-85%, qui sont plutôt bons pour du stockage d'énergie, et à des quantités phénoménales. Et alors lui, il a dit, mais est-ce que ça ne peut pas être généralisé, ça ? Alors lui, il a étudié l'ensemble de la planète, il a mis au point un logiciel qui identifie les endroits où il y a du dénivelé, hein, parce qu'il faut remonter, et c'est le fait de remonter de l'eau, ou de la redescendre, qui fait qu'on... c'est de l'énergie potentielle, hein, il faut de la hauteur. Il a regardé comme ça, il a calculé, et il a trouvé un truc de dingue, qu'il y avait une capacité de stockage phénoménale. Sur l'ensemble de la planète, il a trouvé 530 000 sites potentiels, alors qu'il doit y en avoir quelques, pas beaucoup, et beaucoup plus que ce dont on a besoin si on basculait en 100% renouvelable. Alors par exemple, il a regardé, pour l'Australie a besoin de 500 gigawattheures de stockage s'ils sont en 100% renouvelables, il y en a 300 fois plus de disponibles. Aux États-Unis, c'est 200 fois plus. Alors ça marche pour la France, ça marche pour plein d'autres. Et les coûts sont pas trop élevés, enfin voilà, c'est un peu l'idéal. Or, c'est un des arguments anti-renouvelable et pro-nucléaire qui tombe grâce à cette étude. Alors bien sûr, dans les 530 000 sites, tous sont pas utilisables. Mais d'après ces calculs, il suffit d'en utiliser 1% pour stocker l'ensemble de l'énergie nécessaire. Si on passait au 100% renouvelable avec effectivement des productions intermittentes. Donc voilà, c'était juste une preuve de plus que si on n'y passe pas, c'est un choix. Voilà, j'avais une petite info aussi sur le solaire qui a battu des records l'année dernière, une nouvelle augmentation dans l'installation dans le monde entier, progression de 7,9%. Donc voilà, je ne veux pas vous donner tous les chiffres parce qu'on est un petit peu court en temps, mais ça augmente beaucoup. Et toujours dans l'énergie, on a le chiffre, je ne vous l'avais pas donné une fois, je l'avais cherché, je ne me rappelais plus, de la quantité de déchets nucléaires qui concerne la France. 1 620 000 mètres cubes de déchets radioactifs sont comptabilisés en France il y a un peu plus d'un an. C'est le dernier chiffre. Ça fait à peu près 648 piscines olympiques. Bien sûr, il y a 5 catégories de déchets. Seules les deux dernières catégories sont très problématiques, puisqu'il faut les garder étanches, loin des êtres vivants, au moins 100 000 ans. Donc voilà, mais c'était pour rappeler que la quantité de déchets reste phénoménale. Et la dernière info sur cette rubrique énergie environnement, nous vient d'Arabie Saoudite. Ils remettent un coup de semonce, enfin ils remontent au créneau, dirons-nous, puisqu'ils cherchent à nouveau à investir dans le nucléaire. Alors, ça fait des années qu'il y a la propagande en Arabie Saoudite en disant, voilà, nous on consomme un tiers de ce qu'on sort de pétrole pour faire de l'électricité chez nous. Donc c'est pas bien le pétrole, tout ça. D'abord on perd de l'argent, puisqu'au lieu de le vendre, on le consomme. Et il faut qu'on développe un moyen de fabriquer de l'électricité. Et on va prendre le nucléaire. Donc, il y a plein de projets qui datent. Hein. En 2010, ils avaient annoncé la construction de 16 réacteurs nucléaires. Il y a plein de choses et ça revient. Ils remettent encore un coup aujourd'hui. Alors qu'on rappelle que l'Arabie Saoudite, vu les déserts et vu le soleil qu'il y a, ils pourraient produire de l'électricité entièrement renouvelable sans aucun problème. Le seul truc, c'est qu'on connaît la raison, puisque c'est à partir des centrales nucléaires que l'on peut fabriquer du plutonium, c'est-à-dire des bombes atomiques. Et l'objectif de l'Arabie Saoudite, comme de pas mal de pays, c'est de fabriquer des bombes atomiques pour faire péter la planète ou pour faire péter le voisin d'abord. Donc voilà. Alors on sait que les États-Unis et ces deux sénateurs notamment qui se sont prononcés contre un transfert technologique du nucléaire vers l'Arabie Saoudite. Hein, c'est un des. Il y a une grosse entreprise américaine, Westinghouse, qui vend des centrales nucléaires. Par contre, on n'est pas à l'abri que la Russie ou la Corée, puisque TEPCO est assez proche de l'Arabie Saoudite, vendent de la centrale nucléaire. Bon, la France, on n'a pas trop d'écho en ce moment, mais comme le président Macron est très très pote avec la dictature saoudienne, on n'est pas à l'abri qu'un jour la France participe au développement des armes nucléaires dans le monde en vendant une centrale ou plusieurs à l'Arabie Saoudite.
Alors les vendeurs d'homéopathie, les profiteurs, ont lancé une grande campagne pour riposter sur les attaques que les multinationales, les médecins homéopathes et les consommateurs ont subies hein, ces derniers mois. Donc c'est une grande campagne qui s'appelle « Mon homéo, mon choix ». Pourquoi ? Parce que y a quand même la réflexion de savoir si ça ne va pas être déremboursé. C'est-à-dire simplement ne plus être remboursé en fait par la sécurité sociale. Donc tout le monde monte au créneau. Alors pour vous dire, sur le site internet, on a le CCH, le SHI2SO, le SSMMA, le CHF, le CNMA, le FFSH, le CEDH. Enfin bon, tout plein de gens qui signent, hein, c'est-à-dire le Syndicat National des Médecins Homéopathes, la Fédération Nationale des Sociétés Médicales Homéopathiques de France, ce genre de truc. Et puis on a surtout les laboratoires Boiron,
bah oui.
Les laboratoires Lenning, et qui c'est qui... Important aussi, le dernier mot, c'est Velleda. Non, je dis ça parce que ça se trouve, vous utilisez une crème ou un shampoing, il faut toujours réfléchir avant d'acheter un truc. Moi, je dis que ça. Voilà, donc réfléchissez. Et puis, il y a des assurances de patients. Nous, on appelle ça des associations de consommateurs et de consommatrices, mais parce qu'on n'a pas le même regard sur l'homéopathie, bien évidemment. Alors, donc, il y a un beau site internet qui dit « Dérembourser l'homéopathie ? Nous ne sommes pas d'accord. Oh, oh, oh. Pourquoi est-il indispensable de se mobiliser ?» Et alors, c'est marrant parce qu'on nous a déjà fait le coup il n'y a pas très longtemps, avec à peu près les mêmes arguments. Alors, parce qu'en fait, il y a des millions de Français qui se soignent avec l'homéopathie, et ce, depuis des générations. Donc, il faut continuer à rembourser.
Voilà. À un moment, on s'est soigné avec de l'uranium aussi, mais on devrait continuer, non ?
Voilà. Tu peux te soigner aussi avec une pastille à la menthe et...
Et ce qui est intéressant dans leur truc, c'est qu'ils sont attaqués sur le fait que ça ne marche pas, que scientifiquement...
Et jamais ils répondent là-dessus.
Et oui.
Parce que j'ai tous les points,
mais y a, parce
j'ai
que,
toute l'argumentation.
Parce qu'ils sont coincés, en fait. Et ils ont les moyens financiers de lancer toutes les études scientifiques du monde. Sauf que chaque fois qu'ils lancent des études, elles aboutissent à dire ça ne marche pas. Du coup... au lieu de répondre avec des arguments scientifiques, ils répondent avec des arguments
De ce qu'on appelle aussi le pathos. Et faut aussi, alors ils nous prennent aussi côté sensible, parce que le remboursement favorise un usage encadré des médicaments homéopathiques par des professionnels de santé. Alors c'est sûr, pour encadrer l'eau sucrée,
ouais.
Faut mieux avoir un professionnel de santé, c'est quand même vachement mieux.
Je vous rappelle que personne n'est jamais arrivé à se suicider à l'homéopathie.
Hein, parce que l'homéopathie en complément, quand même, il faut attention de ne pas être attaqué aussi.
Ouais.
Il faut bien écouter tout ce que je dis. Parce que l'homéopathie en complément permet à certains patients de mieux supporter leur traitement lourd. Évidemment, là, on nous parle de cancer.
Ouais.
Il faut noter le « en complément, certains et mieux ». Ils font pas n'importe quoi hein, quand même dans la communication. Hein. Donc on nous donne un exemple. Par exemple, 20% des patients atteints de cancer ont recours aux médicaments homéopathiques pour réduire les effets secondaires des traitements anticancéreux. Là, moi, je trouve qu'ils prennent des risques. Hein. Parce que alors aussi, les patients suivis par un médecin homéopathe prennent en moyenne 2 fois moins d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et 3 fois moins de psychotropes pour un résultat clinique équivalent. Alors, c'est pas parce que, rappelons-le, il y a des médecins généralistes qui prescrivent trop de choses que pour autant, il faut prendre de l'homéopathie. Là, je veux dire, je pense qu'il faut être très clair. Donc, évidemment, là aussi, on vous propose de signer une pétition. Quand j'avais regardé le truc tout à l'heure, on était à 14 912. Là, je crois que je viens de regarder, on est à un peu plus de 15 000. Me doute bien qu'il va y avoir tout plein de signatures.
Ouais, ce qui est triste. Hein, de
mais
voir le...
si je vous en parle, ouais, c'est parce qu'on sait que on en a discuté il y a quelques jours avec quelqu'un qui est aussi estomaqué par toute cette approche non scientifique de notre société.
Donc, effectivement, c'est difficile de lutter
contre
les croyances.
Et qu'on sait qu'on est plein quand même à se battre contre ces croyances. Et puis des gens qui ont exactement les mêmes réactions avec les platistes, c'est-à-dire on nous dit que la science, ça ne sert à rien. Donc voilà, ça risque de vous revenir dans la figure hein, au petit déjeuner, enfin au déjeuner là dans votre boulot. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Tu veux vous parler de quelque chose ou pas? Ou je suis fini?
Oui, alors une info marrante, c'est que notamment Nathalie Perrin-Gibert qui était à Dunkerque hier met souvent en avant dans sa future campagne pour les municipales de 2020 la mobilité et notamment la gratuité du réseau TCL. Comment couper court à tout ça? Eh ben, le Citral est en train de trouver l'astuce, alors c'est pas les premiers à le faire. Ils vont mener une étude sur le sujet qui va démontrer que c'est pas possible. Voilà. Bon, je vous le dis d'avance. Ils font exprès de faire une étude. Ils vont dire que ça va coûter cher, que voilà, que c'est pas jouable, et donc que à l'échelle de la ville de Lyon, comme l'a fait Anne Hidalgo d'ailleurs, pour casser la gratuité, le principal intéressé, c'est-à-dire celui qui fournit et qui gère le réseau, fait faire une étude qui démontre que c'est pas jouable.
Alors, on va terminer avec les tweets. Ouais, je vous en ai trouvé une pour cette semaine. Elle est croustillante tout plein. Et puis si je vous en parle, c'est parce qu'il y a des gens comme toi, Laurent, qui ne connaissent pas Agnès Sirigeli. Mais pourtant, qu'est-ce qu'elle fait parler d'elle, cette petite dame? Alors déjà, là, c'est parce que là, il y a des assos qu'on a vraiment ras-le-bol, qui devraient porter plainte contre elle.
Alors c'est qui déjà?
Alors, elle se présente à la... Alors déjà, elle a fait parler d'elle il n'y a pas très longtemps parce que c'est une menteuse. Elle s'est présentée comme élue La République En Marche. Alors, elle est bien adhérente, c'est un boulet, a priori, mais elle n'est pas élue. Elle s'est présentée aussi comme présidente d'une association. Elle l'a été il y a longtemps, mais elle ne l'est plus. D'ailleurs, les autres ont communiqué pour dire qu'elle ne l'est plus.
Attends, mais quand on est président, on n'est pas président à vie?
Ah si, c'est ce que Sarko, il a dit, ouais.
Bah, ouais.
Alors, pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance, donc voilà, c'est pour vous dire que déjà, c'est... Elle se fait un peu traiter de menteuse. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est d'autres gens. Si je vous en parle aussi, c'est parce que je vais tout de suite vous mettre le cadre. Elle a écrit ça le 2 avril hein, sur son compte de Twitter gazouille. Depuis que j'ai eu l'audace de révéler que je suis catholique et hétérosexuelle, donc elle a eu l'audace, je suis victime d'attaques mensongères, de calomnies et de menaces de la part des activistes LGBT et de leurs adeptes qui occupent les plus beaux postes au sein du ministère, des ministères et de LRM, donc de la République En Marche, honteux.
Ah, il y a aussi de l'entrisme LGBT à la République.
Parce qu'en fait, comme c'est un boulet, ils essayent de s'en débarrasser, si tu veux. Parce qu'elle elle essaye de se faire prendre en photo avec Macron, enfin tout ça. Elle est très très drôle, cette dame. Alors en fait, on pourrait en rire, et on va quand même en rire, mais en fait, il ne faut pas oublier que derrière, ça touche des gens. Mais il y a un moment, je pense que la bêtise humaine, c'est tellement plus important que le reste qu'il faut quand même. Vous avez le droit d'être troll avec cette dame, parce que les gens lui répondent et que c'est très très bien. Donc je vous le dis aussi, parce que si vous aimez être troll, vous avez le droit d'être troll de gauche. On n'est pas obligé de laisser la place à ceux de la droite et de l'extrême droite. Elle écrit : le lobby LGBT est hétérophobe, misogyne, anticlérical. Tout le monde le sait. Personne ne le dit. Par peur. Comment une minorité sexuelle peut-elle diffuser son infâme propagande dans les écoles, les universités, les entreprises, apeurer les Français et les contraindre au silence ?
Putain, ils font tout ça, la communauté LGBT, là ? Oh.
Le lobby, pardon.
Ah oui, mais...
Suis, s'il te plaît.
C'est compliqué. Le lobby,
alors,
excuse-moi.
LGBT est un lobby mondialiste et libertaire qui promeut l'homosexualité...
Ben ça, c'est une qualité, libertaire.
Bisexualité, transsexualisme. Il défend la PMA pour toutes, la GPA, l'éducation sexuelle obligatoire pour les enfants. Il lutte contre l'hétéronormativité.
Oh,
son idéologie est contraire aux droits des enfants. Parce qu'en fait, elle aime beaucoup les petits-enfants.
Qu'est-ce que tu racontes là? Attention.
Si, elle veut toujours protéger les enfants. Donc elle est, en fait, elle est homophobe pour protéger les enfants. Mais elle dit qu'elle n'est pas homophobe. Alors, je vais vous en lire un autre. Hein. Donc SOS homophobie, elle leur répond. Je me permets de vous rappeler l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et tout ça. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne trouvent pas l'ordre établi par la loi. Merci de cesser vos menaces à mon encontre. Alors là, je tiens tout de suite à te dire. Donc elle fait un signalement.
Elle avait été menacée ?
Ouais, elle a fait un signalement. Préfet police. Sauf que ce qui est très drôle, c'est qu'il y en a qui lui rappellent que l'homophobie, c'est pas une opinion.
Ouais, c'est ça.
Juste, voilà. Hein. Non, mais il faut le savoir. Hein, quand même. Il faut savoir le dire tout de suite aux gens qui nous entourent. Qu'est-ce qu'elle dit ? Je ne suis pas homophobe. Je défends les enfants contre la propagande LGBT en France. Pour ces activistes, le sexe n'existe pas. Il est une construction sociale, cette idéologie subversive incitant les enfants à expérimenter la bisexualité ou le transsexualisme doit être combattu. Hein, voilà. Donc, toi, lesbienne, tu pousses donc les enfants à être bisexuels. C'est magnifique. Derrière une propagande, il y a toujours une cupidité. Là, elle en revient toujours avec l'LGBT. Et alors, je tiens à dire que là, je ne suis remontée qu'au 15 mars.
Elle a l'air bien quand même.
Donc en quelques jours, elle t'en écrit. Là, je suis toujours sur le 29 mars et on y était déjà tout à l'heure. Alors, depuis que Mme Schiappa a rendu obligatoire dès 6 ans l'éducation sexuelle à l'école et la description détaillée des sexualités LGBT et du transsexualisme, on constate que de nombreux enfants influencés par la propagande LGBT veulent changer d'identité sexuelle. Inquiétant. Mais elle va loin dans la bêtise, hein.
Ouais, c'est pas mal.
Et là, on se demande pourquoi elle joue un compte, elle, hein, sur Twitter. Bien sûr que je suis féministe. Moi, je l'ai lu, hein, sur quand même plusieurs mois, je peux vous dire que j'ai pas trouvé où. Hein. Mais je n'adhère pas au féminisme intégriste et misandre de Madame Schiappa, qui nie la différence homme-femme, veut réformer la virilité, refuser le partage des tâches familiales, délègue à son mari et ses domestiques le ménage et l'éducation des filles. Elle plane, elle. Mais alors, elle plane. Alors, j'en ai encore une dernière, parce que c'est 59-21 secondes. Dès que l'école s'est ouverte à la théorie du genre et à l'idéologie LGBT, je délire, les suicides de mineurs augmentent en France.
Oh putain, elle a des chiffres un peu, là. Moi, j'aimerais bien savoir.
Je sais
là.
Pas. Donc, la théorie du genre a envahi les cours d'éducation à la sexualité. Je vous passe ça, mais voilà, c'est-à-dire que vous avez le droit de la troller, hein, cette dame. Agnès Sirigali, donc, une femme que nous...
Sirigali.
Donc, on soutient les associations, évidemment, qui vont l'attaquer, porter plainte contre
on
elle.
On a vu l'agression le week-end dernier à Paris, voilà, transphobe, tout ça. Il y a quand même du boulot.
Ce genre de tweet ne font qu'empirer les choses. Elle est d'une haine et d'une... Enfin, elle est dangereuse, hein, en fait.
Ouais. Point. Allez, c'est la fin de ce Canu Info. Pour les, y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, notamment avec le printemps libertaire. On vous laisse aller voir sur Rebellion parce qu'on n'a pas eu le temps de faire un agenda.
Temps, voilà. On vous laisse avec la petite cuillère, surtout. Ciao, ciao.